Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, Crésus et Job.
On va prendre dans le livre de Job. Livre de Job, c'est un homme qui peut nous instruire sur les tribulations de la vie. Il a certainement quelque chose à nous dire dans la manière dont Dieu traite les problèmes et en l'occurrence, comment il va nous aider, nous, à régler nos problèmes. Alors Job, chapitre 8, verset 7, et vous allez mémoriser ce petit verset simplement. Job 8, verset 7, et voilà ce qui est dit. « Ton ancienne prospérité semblera peu de chose, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. » Ah, ça c'est curieux. Hein. Écoutez, je le relis. On va voir pourquoi. Hein. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Alors, quand on connaît l'histoire de Job, on se dit, où est-ce que tout cela va nous mener? Parce que c'est vrai que... Mais là, il avait besoin d'être encouragé, Job. Hein, parce qu'il n'était pas sorti de l'épreuve. L'affliction, il était en plein dedans. Et il avait besoin de recevoir un encouragement. Alors, on va prendre un peu le contre-pied de cela, et j'y reviendrai à notre ami Job. Vous savez, Job, il y a un proverbe qui dit « pauvre comme Job ». Alors, c'était, on pourrait le dire, Job était un pauvre riche. Oui, comprenez ? Et puis, je voudrais vous parler d'un homme dont le nom n'est pas cité dans la Bible. Mais c'est quand même une histoire, c'est historique. Il s'appelle Crésus. Et lui, c'était un riche pauvre. Job, un riche. Un pauvre riche, c'est ce que j'ai dit, attention. Hein, c'est un pauvre riche et Crésus, un riche pauvre. Et on va voir comme cela dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Parce que il y a quand même une drôle d'histoire derrière tout cela, qui nous apprend que finalement, il ne faut pas se fier aux apparences. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit pour des chrétiens de l'Église primitive, les premiers siècles. Et il est question d'hommes chrétiens qui vivaient dans une ville qui s'appelait Sardes. Sardes, l'étymologie en grec veut dire tout simplement, le mot Sardes, veut dire prince de joie. Alors il devait y avoir de la joie à Sardes. Hein. Peut-être pas à l'intérieur des cœurs, mais à l'extérieur. Et le principal, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. C'est pour ça que je vous ai dit que le roi qui régnait, il s'appelait Crésus, parce que c'est historique. Hein. C'est l'histoire. Alors, je vais lire un petit peu. Il est dit au chapitre 3, verset 1er, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Voilà. Voilà. Quelqu'un qui passait pour être vivant et qui était mort. Lui, il croyait qu'il était vivant et il était mort. C'est curieux, hein? Parce que dans la Bible, nous avons aussi le contraire qui nous est donné. Et on va le voir. Parce que vous savez, on aurait donné Job pour mort, hein? Avec tout ce qui lui est arrivé. Il avait perdu ses enfants, tous. Il avait perdu tous ses moyens d'existence. Il avait perdu sa renommée aussi, parce qu'il paraît que c'était un prince de l'Orient. Il avait perdu sa femme. Il avait perdu sa santé à en mourir. On pouvait dire, tiens, voilà Job, un homme, il est fini, hein, il n'y a rien à espérer. Il est mort, Job. Et pourtant, on va voir qu'il était vivant. Or, quand nous tournons les regards dans l'histoire, tout simplement de l'Apocalypse, là, le livre, hein, l'épître de enfin, Jean, hein, dans Sardes, on s'aperçoit qu'il y a toutes les apparences de la vie, et pourtant, c'est la mort. Ce sont des références historiques, je tiens à le dire, hein, ce n'est pas de la légende, ce n'est pas des contes, ça a vraiment existé. Ce royaume de Sardes, c'était un royaume qui était d'une grande prospérité, comme l'Antiquité en a connu, comme nous pourrions dire aujourd'hui, eh bien peut-être dans notre monde moderne, en l'an 2011, il y a des pays qui sont privilégiés par rapport à d'autres, parce qu'il y a du commerce, parce qu'il y a des richesses, parce qu'il y a ceci et cela, à côté de la détresse qu'il y a autour de nous dans le monde, où les gens n'ont même pas à manger. Et nous pouvons dire qu'à Sardes, vraiment, c'était une province où il y avait une prospérité extraordinaire. Sardes était la capitale, mais ça faisait partie de la province de Lydie. Lydie, dans l'étymologie en grec, ça veut dire « qui plie ». Oui, « qui plie », »,« qui ploie », si vous aimez mieux, qui se courbe. Alors peut-être que, justement, il y avait eu allégeance de cette province, de son roi, de sa capitale, pour prier aux choses faciles. Et vous savez, la richesse, ce n'est pas ce qui donne de l'endurance aux gens. Hein. Au contraire, ça les amène à dormir, ça les amène à ne plus combattre, et de dire, eh bien, finalement, la vie est belle, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et on peut comprendre que la province qui s'appelait la province de Lydie, province romaine, eh bien, se coulait tout simplement, eh bien, là, un petit peu au gré du temps, etc. Et les chrétiens étaient menacés dans cette région. Parce que c'était facile, lorsqu'il y avait des biens matériels, lorsqu'il y avait de la prospérité, une bénédiction, l'argent facile, etc., etc. C'était facile de dire, eh bien, on se laisse conduire, et puis il n'y a pas de problème, c'est très bien comme ça. De par l'histoire également, je le rappelle, le roi s'appelait Crésus. Il a réellement existé. Et vous savez que autant on peut dire riche, enfin pauvre comme Job, autant on dit riche comme Crésus. Ça c'est passé dans les proverbes, c'est passé dans le langage courant. Quand il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, a fait fortune, ou quelqu'un qui a tiré un petit peu trop sur la manette de du tac au tac, ou paf, ça lui est tombé dessus, on dit il est riche comme Crésus maintenant. C'est une identification, hein. Voilà. Et ça remonte de l'Antiquité. Ce sont des choses qui font partie, tout simplement. Et nous voyons que ce roi avait amené probablement une grande richesse à sa capitale, aux habitants, à sa province. Et il vivait dans le luxe. Voilà. Et chose surprenante, que vous pouvez contrôler sur une carte de géographie aujourd'hui, il y avait une rivière qui traversait la Lydie et qui traversait la ville de Sardes. Cette rivière, je vous la donne en mille, ça s'appelait le Pactole. Et vous pouvez le vérifier aujourd'hui, vous allez en Turquie, en Asie mineure, vous allez là-bas et vous verrez, peut-être que c'est, si vous avez des cartes dans votre Bible, ça s'appelle le pactole. Et c'est pourquoi dans le langage moderne aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un a gagné, il a gagné le pactole. C'est ça la Bible. On a des expressions comme cela, on se dit, voilà, hein, on se dit, mais il y a des choses comme ça qui remontent. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui citent des paroles de Jésus. Voilà. Il y a des gens qui croient que c'est dans la Bible et que ce n'est pas dans la Bible. Je vais vous en citer une. Il y a des gens qui nous disent « Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est biblique. » C'est pas biblique, ça n'a jamais été marqué dans la Bible. Et ils le croient que dur comme fer. Ils ne croient pas ce qui est dit dans la vérité de la Bible, par contre. C'est curieux, hein, ça. Alors, c'est simplement pour mettre en configuration. Et Dieu va dire, finalement, à la fois à toute la région, à tous les habitants de la région, mais particulièrement peut-être aussi aux chrétiens qui se trouvaient là et qui étaient menacés de mort morale et spirituelle en raison de toute la nonchalance, de l'aisance, du confort et du bien-être. Dieu lui dira, tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça, c'est une grave question. Oui, parce que ça remet en cause finalement la réalité de notre vie. Est-ce que je suis vivant ? Pourquoi je suis vivant? Comment je suis vivant? Qu'est-ce qui me fait? Qu'est-ce qui fait que j'entretiens la vie en moi? Voilà. Ça, ce sont des choses que beaucoup de gens ne se posent pas parce qu'ils se disent « Mangeons et buvons parce que demain nous allons mourir. » Bah, c'est un raisonnement, mais ça va pas très loin, hein, parce que si la vie n'est que simplement en perspective de 50, 60, 80 ans, peut-être 100 ans pour les plus âgés, s'il n'y a rien derrière, c'est quand même assez déprimant. Hein. Vous pouvez tout avoir dans la vie. Vous pouvez avoir monté un empire, vous pouvez avoir un empire entre vos mains, vous pouvez avoir des richesses, tout ce que vous voulez. Vous donnez tous les plaisirs, hein. Mais finalement, si la réalité de la vie, la vraie vie, du bonheur, de la joie, de la paix, pas les choses éphémères, pas les choses qui nous font courir, pas le miroir aux alouettes, hein, pas le mirage, vous savez, comme l'égaré dans le désert, parce qu'il a soif, hein, et il est sous la chaleur, il voit devant lui dans un mirage, parce que ce n'est qu'un nuage, hein, eh bien resplendir peut-être un oasis là devant lui, alors que finalement plus il approche, plus ça s'éloigne, et plus il se fatigue. Eh bien c'est ça la vie. Et beaucoup de gens sont là, à avoir des mirages devant eux, c'est la course aux chimères et qui fait que les gens sont complètement désabusés parce que, à force de courir après un but qui n'existe pas, eh bien, finalement, on s'aperçoit que ben, si c'est ça la vie, c'est rien. Et Dieu dira, tu passes pour être vivant, tu es mort. Et si Dieu le dit, c'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement, c'est pour que... parce que Dieu est le seul capable finalement de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire, que si tu passes pour être vivant et que tu es mort, donc tu es mort, moi, si tu veux venir à moi, si tu veux écouter ce que j'ai à te dire, eh bien de mort que tu es, tu peux devenir vivant. Et ça, le message et la puissance de l'Évangile. C'est ça ce qui est extraordinaire. Et c'est ce qui nous est arrivé à chacun les uns et les autres. On pourrait tous raconter une histoire cet après-midi que nous étions morts, sans savoir que nous étions morts, et nous avons rencontré Jésus et il nous a donné la vie. Et qu'est-ce que vous croyez qu'on fait là cet après-midi? Ce que l'on dit, et pourquoi on le dit? C'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner le nom de miracle? Est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner le sens que quelque part, eh bien, Dieu nous a saisi à un moment ou à un autre pour nous parler? Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire qu'il y a différentes formes de se croire vivant et d'être mort. Moi, je voudrais simplement vous dire, en parcourant hein, les textes comme ça, simplement, nous connaissons un jeune homme dans la Bible qui s'appelle le fils prodigue, dont Jésus nous parle, dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, et il nous est dit qu'il était mort dans sa corruption. Il était mort dans sa dissolution. Un garçon qui vivait dans la maison de son père, qui avait tout pour être heureux, comme à Sardes, on peut dire. Et il s'est dit à un moment donné, « Ah, je suis... fatigué d'être heureux. » Oh, ça c'est quelque chose. Il était malheureux d'être heureux. C'est difficile à comprendre. Et comme il était malheureux d'être heureux, il s'est dit, je vais aller voir mon père, je vais lui dire, écoute, moi maintenant à la maison, j'en ai par-dessus la tête. Voilà, je voudrais voir un petit peu ailleurs. Son père lui dit, vas-y. Ben, il n'a pas essayé de le retenir. Il a emporté la moitié de la fortune. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Il a dépensé tout ce qu'il avait. Les amis de circonstances qu'il avait parce qu'il avait beaucoup d'argent, lui ont tourné le dos et il s'est retrouvé dans la misère. Et à ce moment-là, il s'est dit, bien, il faut que je revienne à la maison. Parce qu'il s'est aperçu au sein de la détresse, de la famine, de tout simplement, eh bien, son affaissement, il s'est aperçu à ce moment-là qu'avant il était vivant et il s'est mis lui-même dans la mort. Et il avait compris que de mort, on peut redevenir vivant. Il est retourné vers son père et lui a dit « Pardonne-moi, maintenant je reprends la vie. » Et on connaît l'histoire, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mort à cause de son péché et de sa corruption. Mais il a eu le courage de dire « Maintenant je romps avec mon ancienne vie. » C'est terminé parce que ce n'est pas une vie. C'est une vie qui me détruit, c'est une vie qui me met à mort. C'est une vie qui me perturbe parce qu'elle crée en moi de la culpabilité. Voilà, ma conscience n'est plus en paix. Vous savez ce qui est important? C'est d'être en paix avec sa conscience. Et quand on est en paix avec sa conscience, on est en paix avec Dieu. Et quand on est en paix avec Dieu, on est en paix avec les autres. Et lui, il avait perdu tout ça. Vous connaissez aussi l'histoire d'un homme qui était mort dans son égoïsme. Vous allez me dire, bah oui, mais il pensait à lui. Bah oui, parce que l'égoïsme, c'est de penser à soi, et seulement à soi. Vous savez, c'est le riche propriétaire qui raisonnait, qui dit, moi je suis riche, je ne sais plus quoi faire de ma richesse. Il avait peut-être de la chance, mais... Mais toujours est-il qu'il avait des projets. Alors il a mis ses projets à exécution, et au moment où il allait atteindre tout simplement le résultat de ses projets, Dieu lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et la question qui est posée, mais à quoi cela va-t-il servir, puisque tu as travaillé toute ta vie, certainement honnêtement, et que tu as mis tout ça en place, et tu n'es même pas propriétaire de ta propre âme, de ta propre vie, puisqu'elle va partir cette nuit. Ça sert à quoi ? Oui, ça sert à quoi tout ça ? Ça, c'est encore une illusion de vie. C'est encore une illusion d'être vivant, parce que ce qui nous fait vivre, ce n'est pas les choses extérieures, ce qui nous fait vivre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la vérité, c'est l'amour, c'est la grâce de Dieu. Ça, ça change tout. Il y en a un autre qui était mort dans ses passions, enfin, dans les chaînes de la possession. Vous savez, c'est le gadarénien qui était là complètement perturbé psychologiquement, psychiquement même, puisqu'il était, il était un forcené, il vivait dans les cimetières, il nous est dit dans la Bible, hein, et il faisait la terreur de toute la région, et nous voyons qu'il y avait en lui une vie étrangère, mais c'était une vie de mort. Ce n'est pas quelque chose qui lui apportait finalement la paix, le bonheur. Tout le monde avait peur de lui. Alors comme tout le monde avait peur de lui dans la région de Gadara, eh bien on essayait de temps en temps de le mettre dans des chaînes, de l'enfermer et tout ça, mais il avait une force en lui qui faisait que il faisait tout éclater. Et il vivait, je l'ai dit, dans les sépulcres. Quand on vit dans les sépulcres, c'est qu'on n'est quand même pas loin de la mort. Hein. On y passera suffisamment de temps. Hein. Alors c'est pas la peine d'y aller avant. Mais lui, il vivait là-dedans dans un esprit morbide, c'était un malheureux, c'était un malade. Et nous voyons que lui aussi croyait, et il laissait peut-être à croire qu'il avait la vie en lui parce qu'il s'agitait, il était un forcené, mais ce n'était pas la vie. Il y en a qui étaient morts aussi dans la Bible, dans l'Évangile, parce que ils étaient dans l'illusion d'une fausse croyance. C'étaient les pharisiens, vous savez, ces gens de la religion d'Israël, qui allaient au temple 3 fois par jour, qui faisaient ceci, qui faisaient cela, qui faisaient des prières, qui donnaient, enfin bon, tout cela. Et Jésus va leur dire en face, il va leur dire, mais vous savez ce qu'il va leur dire ? Vous êtes comme des sépulcres blanchis. Vous savez ce que c'est qu'un sépulcre ? C'est pas l'aspect de la vie, hein, c'est la mort, hein, là. Et il leur dira en face, parce que pour eux, la vie, ils n'en voulaient pas. Et vous savez pourquoi ils ne voulaient pas la vie ? Derrière leur manteau religieux, c'est qu'ils ne voulaient pas la vérité. Parce que pour avoir la vie, il faut aimer la vérité. Il faut avoir l'amour de la vérité. Il faut avoir l'esprit de vérité à l'intérieur de soi-même. Et Dieu le met dans les cœurs de l'homme. Et l'homme est libre de dire oui, j'aime ou je n'aime pas. Je veux la vérité ou je ne la veux pas. Parce qu'elle est là au fond de chacun. C'est un positionnement, c'est un choix. Il y a aussi un autre homme. Je parcours brièvement hein, parce qu'il y en a tellement de choses à dire. Il allait mourir dans la haine et dans la révolte. Vous savez, c'était ce brigand qui était à la droite ou à la gauche de Jésus. Lui, il était aux derniers instants. Il savait que c'était une histoire de quelques minutes, voire plus, peut-être 2 ou 3 heures ou quelques heures. Et il était révolté. Il était révolté parce que c'était un bandit. Et il avait été pris par les Romains. Et les Romains l'avaient mis crucifié. Et il se disait maintenant, avec les pieds et avec les mains entravés sur une croix, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus faire de mal. Et il était révolté. Et là, c'est là où il aurait dû réfléchir pour dire, eh bien voilà, moi, qu'est-ce que je vais faire de mes derniers instants ? Par contre, il y avait l'autre qui était à côté, qui était mort, enfin, façon de parler, il était mort à cause de sa condamnation, à cause du jugement, à cause de ses crimes de sang, parce que c'était quand même pas des oies blanches, hein. S'ils étaient là, c'était pas pour rien. Et lui, au dernier moment, c'est au moment où il sent qu'il va perdre la vie, qu'il se tourne vers Jésus et il lui dit cette parole, « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Tu vivras. » Ça, c'est quelque chose. Hein. C'est ça, la question. Et quand on pense à l'histoire que nous avons dans le livre de l'Apocalypse, que ce soit Crésus dont nous avons parlé, parce qu'on a cité le cas, ou peut-être tous ces chrétiens qui étaient un petit peu à se s'attiédir dans leur foi et leur vivacité, leur ferveur, eh bien, Dieu disait « Mais tu passes pour être vivant et tu es mort. » Et c'est la question qui peut être posée à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Il y en a un que l'on a cru, et je finis là-dessus pour cette partie-là avant d'arriver à Job, mais il y en a un qui était vraiment mort pour tout le monde. C'est celui qui avait enseigné les foules pendant 3 ans, qui était sur la croix du calvaire. On l'avait vu, hein. Les gens avaient été spectateurs, alors qu'il y avait les ténèbres, alors que le voile du temple s'est déchiré en deux, et que là on a vu un soldat à un moment donné prendre une lance et lui percer le côté. On a vu de l'eau et du sang sortir à ce moment-là. Et les gens disaient, il est mort. Parce que quand on fait ça, quand on a un clou monumental dans chaque main et dans chaque pied, que vous êtes là en train de rendre le dernier souffle parce que vous êtes pendu, parce que contrairement à ce que l'on pourrait penser, quand on est crucifié, ce n'est pas les clous et les clous et puis tout le reste, parce qu'on ne meurt pas à cause des blessures, on meurt à cause de l'étouffement. Voilà. Parce que le corps, à ce moment-là, sur une croix, elle est verticale naturellement, elle repose uniquement sur quatre points, et à ce moment-là, le corps s'affaisse de plus en plus, et vous mourrez par tout simplement asphyxie. C'est ça ce qui rend la crucifixion la plus terrible et la plus horrible. Et c'est de cela que Jésus est mort. Alors quand on l'a vu au dernier moment, on lui a percé et les gens disaient « il est mort ». Mais deux ou trois jours après, on a mis Jésus au tombeau. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les femmes sont venues, les chrétiennes, les premières chrétiennes de l'histoire, sont venues pour embaumer le corps. Et quand elles sont venues, il n'y avait plus personne. La pierre avait été roulée, le tombeau était vide, et tout le monde se posait la question. Et là, derrière, il y avait, alors qu'elles étaient perplexes, qu'elles se posaient la question, qu'est-ce qui se passe? Et là, à ce moment-là, il y a eu des messagers angéliques, on peut dire, qui a répondu à la préoccupation de ces femmes. Et vous savez ce que ces messagers ont dit aux femmes, qui étaient toutes effrayées de savoir que le corps n'était plus là? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Voilà. Tout le monde croyait qu'il était mort, mais il était vivant. Alors j'espère que vous allez comprendre quelque chose cet après-midi, parce que je suis en train de vous tenir un langage qui est le contraire de la nature. La nature nous dit que l'on passe de la vie à la mort. C'est comme ça normalement, non? On s'y attend tous. De la vie à la mort. Et la Bible est en train de nous tenir un langage d'espérance et de foi qui nous dit qu'elle nous fait passer de la mort à la vie. Et ça, c'est un triomphe. Alors je peux vous dire que tous les philosophes, s'il leur reste encore quelques cheveux sur la tête, sont en train de se les tirer encore. Hein, parce que ça défie la raison. Surtout d'après la mentalité des hommes de tous les temps, qui nous disent « quand on est mort, on est bien mort ». Oui, le corps. Oui, l'enveloppe. Ce que je suis dans mon aspect extérieur. Mais attendez, c'est vraiment oublier le message principal que la Bible, que Dieu, la parole de Dieu nous a donné et que Jésus est venu nous annoncer, c'est que la vraie vie, elle n'est pas dans ce corps. Elle est dans l'âme et dans l'esprit. Et ça change tout. Parce que je voudrais remarquer que Jésus a rendu l'esprit à son Père. Ouais. Et c'est une question spirituelle. Ce n'est pas une question d'enveloppe. Vous savez, s'il n'y a que l'enveloppe, elle a son utilité tant que nous sommes sur la terre. Et Dieu nous a donné un corps, il faut l'entretenir, il faut avoir une hygiène. C'est normal, c'est glorifier Dieu de ce qu'il nous a donné. Mais le reste, qu'est-ce que vous voulez? Regardez les Égyptiens. Pour garder le corps, ils l'embaumaient. On en retrouve encore des pharaons. Il y avait les pharaons qui faisaient ça parce que ça coûtait cher. Mais ça sert à quoi? L'essentiel, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, c'est l'intérieur. Et de quoi est fait notre intérieur? De quoi nous le remplissons? Avec quoi nous nourrissons notre vie? Notre vie. On sort peut-être de table pour certains, après un repas, mais ça c'est fait pour nous donner des forces, nous renouveler dans nos forces, nous renouveler dans la vie. Mais il y a une autre nourriture. C'est celle que nous ouvrons cet après-midi, pour nous donner de l'espérance. Vous savez, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, quand on voit nos jeunes, quand on voit nos plus âgés, de voir le désespoir, le désarroi, l'angoisse, la dépression, la misère qu'il y a autour de nous, la misère morale et spirituelle. Alors à ce moment-là, on peut se poser des questions. Mais les gens vivent pourquoi? Ils vivent de quoi? Et dans quelle perspective? Quand on voit le taux de suicide qui augmente de plus en plus, et raison de désespoir et rejet d'amour, alors à ce moment-là, on se dit, mais il n'y a plus rien. Alors que le véritable amour, et même l'amour qu'il y a sur la terre, il vient de Dieu. Alors si vous coupez les contacts et les communications, alors ça ne m'étonne pas que les gens sont malheureux. Ce qu'ils appellent l'amour, c'est simplement une émotion. C'est simplement, eh bien là, quelque chose qui les fait frissonner, qui leur donne des pulsions ou des impulsions. Mais ce n'est pas ça. L'amour, c'est une volonté. Je veux aimer. Et Dieu nous donne la capacité d'aimer et d'aller au-delà des frontières de ce que nous pouvons même imaginer, de ce qu'est le véritable amour. Et Jésus nous en a donné la preuve au prix de sa vie, puisqu'il est mort à notre place. Par amour, tout simplement par amour. Alors, je connais tes œuvres, je sais que tu es passé pour être vivant et que tu es mort, mais il y a toujours un espoir avec Dieu. Sois vigilant, écoute encore, ouvre l'oreille et ouvre l'œil, et affermis le reste qui est prêt de mourir. Parce que Dieu ne renonce jamais à sauver les plus grands perdus, les plus grands désespérés, ceux qui ont déjà la main sur la gâchette pour se suicider. Il y a encore de l'espoir. Ça, ce qui est extraordinaire. Alors, ce qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Ça, c'est le désespoir de ce monde. On peut s'appeler Crésus, on peut s'appeler, je ne sais pas moi, Rockefeller, ou tout ce que vous voudrez, et puis tous les riches, tous ceux qui... Vous savez, on voit les gens qui sont élevés dans la gloire, ce ne sont pas forcément les plus heureux. Hein. Vous savez, quand vous n'avez plus de besoin, quand vous n'avez plus de nécessité parce que vous avez déjà tout, vous avez tout goûté, vous avez tout vu, vous pouvez vous acquérir n'importe quoi. C'est ce qui a perdu le roi Salomon, hein, quelque part. Salomon avait tout. Il avait un palais, il avait des chevaux, il avait des chars, il avait une armée, il avait un empire, il avait des femmes. Enfin bon, j'en passe, c'est les meilleurs. Et vous savez comment il a terminé ? Dans une misère profonde. Et pourtant, il avait bien commencé. Et aujourd'hui, vous avez des gens, on entend, hein, ça défraie la chronique, vous avez des gens qui finissent tellement pauvrement et terriblement. Parce que finalement, ils ont été au bout du bout. Et ils ne savent plus quoi faire pour se nourrir, pour nourrir un peu, se donner du plaisir et un sens à la vie, puisqu'ils n'ont tout, ils ont tout. Alors c'est vrai qu'on peut toujours ambitionner dans un monde où il y a tant de publicité, tant d'affichage et tant de sollicitations que l'on appellerait des séductions et des tentations. Mais une fois que vous avez goûté à tout, qu'est-ce qui vous reste? Je prends toujours l'exemple, quand on se prépare à faire un beau voyage, on se dit, tiens, on va aller en Amérique ou on va aller, je ne sais pas, quelque part. Enfin, moi, je ne sais pas, vous êtes peut-être comme moi, hein, ou je suis unique, ça me donnerait. Mais toujours est-il que quand on prépare un voyage... On compulse, on regarde des documents, etc., etc. On dit, tiens, on va aller là et ceci. Puis quand on y est, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas tout à fait comme on se l'était imaginé. Et le plus beau d'un voyage, c'est avant de partir, ce n'est pas quand on y est. Non? Non? Oui ou non? Non? Parce qu'on vit sur place, c'est sûr. Mais quelquefois, on est tout émoustillé, on se dit, tiens, on va faire ceci et cela, on va voir ceci et cela. Et puis, vous savez, ça passe très vite, tout ça. Hein. Parce que vous êtes à peine parti, que vous êtes déjà revenu. Alors que vous avez mis 6 mois à le préparer. À gamberger, tout ça. Vous savez, le rêve, ça fait vivre les gens. Hein. Oui. Voilà. Alors, partez pas en voyage, surtout. Vous ne serez pas déçus. Mais c'est pour dire qu'on vit quand même dans une projection de choses. Et quand on a une chose, quand on la convoite, quand on la désire, même si elle est bonne, hein, je ne veux pas dire... Hein, eh bien, tant qu'on ne l'a pas, elle nous fait vivre. Il y a une espérance, il y a du piquant, il y a quelque chose. Hein. Ça a une stimulation. Puis une fois que vous l'avez consommé, vous dites, bah oui, voilà. Hein. Vous payez une belle voiture, vous la regardez chez le voisin, vous dites, tiens, quand j'en aurai une comme ça, vous allez voir un peu. Puis quand vous l'avez, vous dites, bah c'est une voiture comme une autre. Voilà. Puis après, vous regardez encore la gamme au-dessus. Et vous attendez qu'il y ait des aides de l'État, parce que ça coûte moins cher. Enfin, bon, c'est pas grave tout ça, mais c'est pour dire que quand même, ça, c'est la nature du cœur de l'homme. Et on remplit notre vie de quoi? On la remplit avec des choses substantielles ou on la remplit de vide? C'est pour ça qu'à un moment donné, les gens sont tellement vides qu'ils veulent plus. Il n'y a plus rien du tout, hein, ça résonne plus, hein, quelque part. Alors, nous sommes exhortés à cela. Et tout à l'heure, je vous ai dit, et là, maintenant, on va revenir un petit peu sur notre ami Job, je ne veux pas être trop long, mais notre ami Job, il avait besoin d'un encouragement, parce que Job... On pourrait dire qu'il était un peu comme Crésus au départ. Quand on lit le début de son histoire, il était un prince d'Orient. Il était considéré par tous les hommes de son temps. Il était roi peut-être. On pourrait dire prince ou roi. Et puis, il avait une grande prospérité. Il avait énormément de territoires, enfin toutes sortes de choses. Et c'était un homme qui néanmoins, à la différence peut-être de Crésus, c'était un homme qui aimait Dieu. C'était un homme qui était fidèle et intègre, et il lui est arrivé une catastrophe. Eh oui, on pourrait dire, mais parce que, Seigneur, je t'aime, parce que je te suis, comment se fait-il qu'il m'est arrivé une catastrophe comme ça? Tout lui tombe sur la tête. Une véritable avalanche, hein. Ça lui dégringole comme ça. Et il va descendre de plus en plus. Lui qui était riche est devenu pauvre, C'est pour ça qu'on a dit pauvre comme Job. Mais néanmoins, il y a un trésor dans son cœur. Et c'est peut-être en perdant tout ce qu'il avait à l'extérieur qu'il va trouver le véritable trésor à l'intérieur de lui-même. Et Dieu va l'encourager. Il va lui dire, ton ancienne postérité, alors qu'il était au fond, semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Vous savez, il y a toujours de quoi espérer avec le Seigneur. Parce que pour gagner, j'espère que ça ne va pas vous faire bondir, mais pour gagner, il faut perdre. Jésus le dit, celui qui perdra sa vie la retrouvera, et celui qui la perdra volontairement à cause de moi, non, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Celui qui perdra sa vie la retrouvera, et celui qui gardera sa vie la perdra. C'est biblique, hein ? C'est biblique. Et Job, dans cette situation, qui avait eu et qui n'a plus, Dieu lui donne, en quelque sorte, eh bien, un ballon d'oxygène, une lumière qui brille dans son tunnel d'angoisse et de souffrance. Et j'aime bien ces paroles. Ce que tu as été, ton ancienne bénédiction, ton ancienne richesse, semblera peu de choses lorsque la nouvelle qui t'est réservée, eh bien, tu verras qu'elle sera beaucoup plus grande. Alors ça, quand on est dans le moment, on ne sait pas, on ne comprend pas. On se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. J'avais, je n'ai plus. Et comment tu, aujourd'hui, tu peux me dire que tu as préparé des temps, tu as préparé des éléments, tu as préparé une bénédiction qui sera encore plus grande que celle que je connais, que je connaissais auparavant? Eh bien, ça, c'est justement, c'est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Mais pour que nous puissions atteindre cette bénédiction, pour que nous puissions avoir cette grâce de Dieu dans notre existence, il faut que nous venions vers le Seigneur. Parce que tant que nous restons en dehors, tant que nous avons peur de Dieu, tant que nous avons la crainte en disant « Ah, Dieu, c'est le père fouettard, tout ce qui arrive dans le monde, c'est lui », non, moi, je vais vous dire, c'est pas Dieu, hein. Il faut bien le comprendre, hein. Il y a un ennemi, c'est le diable. Et vous savez, il travaille dans l'anonymat. Il fait tous ses coups en dessous pour mettre tout sur le compte de Dieu. Et vous avez vu les gens, quand la première réaction, quand il leur arrive quelque chose, eh bien, ils prononcent le nom de Dieu, jamais le nom du diable. Incognito. Ils jurent. Et au banc de la responsabilité universelle, c'est toujours Dieu qui prend. C'est curieux quand même. Que les gens n'ont pas l'idée de dire qu'il doit y avoir quand même un être malfaisant, intelligent, pernicieux, diabolique, satanique, démoniaque, qui existe. Parce que si vous ne me croyez pas, alors vous allez me donner l'explication après, pourquoi y a-t-il le bien et le mal? Alors expliquez-moi, pourquoi y a-t-il le bien et le mal? Il n'y aurait que le bien avec Dieu qui fait mal? Parce que c'est ça, on dit Dieu c'est le bien, mais après on accuse Dieu de faire le mal. Donc, en logique, dans un raisonnement logique, c'est qu'il y a le bien et le mal. Le bien est personnifié par Dieu, il est parfait, et le mal est personnifié par celui que Jésus appellera dans le sermon sur la montagne, le malin. Le mal, le malin. La méchanceté. Il y a une logique derrière tout ça. Alors, pour revenir et finir avec Job, vous savez ce qui lui est arrivé? Job, il a vécu des mois et des mois dans son épreuve. Ça s'est terminé par un cancer. La Bible nous parle d'un ulcère. Mais bon, aujourd'hui, on dirait un cancer. Il en était arrivé à se gratter avec un tesson de bouteille, de la tête aux pieds. Et vous savez que ça gratte, un tesson de bouteille. C'est fait, c'est normal, c'est coupant. Tellement il souffrait. Oui, ça fait quelque chose. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose. Mais pour vous dire que c'est dramatique, une chose pareille, on entend dans son livre qui est écrit sur Job, on entend « Seigneur, donne-moi la mort, je ne peux plus supporter la souffrance ». Vous l'avez souvent vu, hein ? Je veux mourir, Seigneur. Pourquoi tu as fait le jour où je suis né dans le sein de ma mère pour voir cette catastrophe ? Ça revient très souvent. Il voulait mourir parce qu'il souffrait. C'est terrible. Et pourtant Dieu lui avait dit « Job, fais-moi confiance, parce que ton ancienne postérité n'aura rien de comparable avec la nouvelle que je suis en train de te préparer. » Ça me fait penser à ce que dit Dieu dans le livre du prophète Ésaïe. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve, et ton bien-être comme les flots de la mer. » Vous ne trouvez pas que c'est beau, ça? C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la Bible qui le dit. Mais c'est bien. C'est ça ce qui est extraordinaire. C'est que Dieu veut nous remplir de l'intérieur d'une espérance que nous ne pouvons pas nous imaginer avant de l'avoir connue et de l'avoir découverte et surtout expérimentée. Alors je prends le chapitre 42 de Job maintenant, ça sera la conclusion. Job a souffert, il n'a pas renié Dieu, il a dit des choses, il a crié son désespoir. Et voilà ce qu'il nous est dit au chapitre 42 et au verset 10. Dieu, l'Éternel, rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et au verset 12, « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait dans les premières. Il possédait 14 000 brebis. » Alors, je vais passer un petit peu sur le cheptel. Hein. Par contre, il a eu sept fils et trois filles. Il donna la première le nom de Jemina, la seconde celui de Kessia, et la troisième celui de... Voilà. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses filles jusqu'à la quatrième génération, et Job mourut âgé et rassasié de jours. Il n'est pas mort quand il a voulu mourir. Il est mort quand Dieu lui a dit « Maintenant tu peux mourir ». Mais il n'est pas mort dans l'amertume. Il n'est pas mort dans l'aigreur. Il n'est pas mort dans la déception. Il est mort en ayant vu la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. À travers ce que nous avons lu naturellement. Moi j'aime bien ce mot. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Ouais. Vous savez que Dieu a des sentiments d'amour pour nous. Certains ont associé Dieu avec la haine. Avec la punition, avec le jugement, la condamnation et l'enfer. Je voudrais le dire encore une fois, c'est faux. C'est 10 000 fois faux. Dieu est un Dieu de grâce et de bénédiction qui tend la main aux hommes dans la mesure où les hommes veulent saisir sa main. Il est libre. Il fait comme il veut. Mais quand nous saisissons la main de Dieu et que nous l'appelons à notre secours, mais Dieu sera toujours là, puisque Jésus conclut son évangile de Matthieu en disant « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Ce n'est pas une promesse, hein ? C'est une promesse de vérité. Alors il a rétabli Job, et il nous est dit que l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Ça étaye ce que je disais tout à l'heure, qui perd, gagne. C'est en perdant que l'on gagne, et ça nous le savons les uns et les autres. Parce que pour servir le Seigneur, il a fallu quelquefois laisser tout dans notre vie. Ouais, quitter la famille, quitter notre métier. Partir pour certains en mission en Afrique, au Cambodge, etc., etc. Mais en tous les cas, nous pouvons dire que jamais nous n'avons manqué de quelque chose. La situation extérieure a changé. Notre vie a changé. Mais jamais nous n'avons manqué de quoi que ce soit. Et au contraire, on s'est trouvé quelquefois dans des situations avec moins. Et en faisant les comptes, on a fait le compte qu'on avait plus. Je ne sais pas comment j'expliquerais ça à un comptable. Et encore moins un expert comptable. Mais c'est la vérité. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Dieu est le Dieu de ceux et de celles qui mettent leur espoir en lui. Tout simplement. Alors il lui a accordé le double. Et écoutez, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait auparavant. Seigneur, quand je passe des épreuves, quand je suis confronté avec l'affliction, avec un deuil, avec une perte, donne-moi de jamais regarder ce que je perds. Mais qu'à travers tout cela, eh bien, tu as une école, tu as un enseignement, tu as une bénédiction à me donner. C'est pas formidable une chose comme ça ? Oui. Quand on voit notre monde qui tient quelque chose et qui ne veut pas le lâcher parce qu'il se dit « je tiens », c'était quand même Monsieur de La Fontaine qui disait « un tient bon, deux tu l'auras ». Je ne sais plus dans quelle fable ça. Mais il faudrait qu'on revoie ça un petit peu. Hein. Mais c'est vrai, hein. Les gens ils se disent « Alors je cramponne, je ne lâcherai pas hein. ». Ils se battent, ils font de la guerre pour ça. Hein. Écoutez, il y a des choses, il vaut mieux les lâcher. Parce que quand vous tenez quelque chose dans les mains, vous ne pouvez pas en saisir une deuxième. Ben, quelquefois, il vaut mieux lâcher ce que vous avez pour avoir les mains plus grandes. Ouais. Je vais vous raconter parce que vous l'avez déjà entendu. Oh, mais non, parce que ni mon épouse, ni Valérie n'est dans la confidence. Je suis en confidence avec le Seigneur. Je vais vous faire un petit clin d'œil. Je vous l'avais déjà écouté, mais il y a une petite fille. Sa maman l'envoie à l'épicerie. Vous savez, dans le temps, à l'épicerie, c'était un comptoir. Les plus jeunes n'ont pas connu ça. Il faut que ce soit vraiment des patriarches comme nous. Hein. Mais il y avait un comptoir et puis il y avait des boîtes, vous savez, des bouteilles de verre avec un gros bouchon dedans et il y avait des bonbons. Vous connaissez, il y avait toute une rangée comme ça. Alors on arrivait, on était juste au ras du comptoir. Ouh, c'était quelque chose de formidable. Alors, sa maman va l'envoie faire des courses. On disait dans le temps des commissions. Ça rappelle des souvenirs parce qu'on n'emploie plus ces mots-là hein, maintenant. Et l'épicière lui dit, mais oh, elle devait la connaître. Oh, tu es bien mignonne, ma petite fille. Est-ce que tu veux un bonbon? Alors on voit l'épicière qui commence à déboucher le chose. Puis la petite fille, elle en prend un, tout simplement. Elle en prend un. Et à un moment donné, elle lui dit, mais tu peux remplir tes mains. Vas-y, prends. Prends un poignet, tu prends tout ce qu'il y a. Et vous savez, on est un peu comme la petite fille. On est discret par rapport à la foi et tout ce que Dieu nous donne. On jette un filet et non pas les filets. Et on ramène en proportion de ce que l'on a cru. Et à ce moment-là, eh bien, la petite fille a compris. Elle y était avec les deux mains. Et elle a ramené tout. Ben oui, mais c'est ça justement le problème. C'est qu'il ne faut pas limiter Dieu. La question, c'est que nous avons tout à disposition. Comme l'apôtre Paul le dit, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mais alors, il faut servir, hein. Et ce sont des bonnes choses. Ce sont des choses pures, ce sont des belles choses, ce sont des bonnes choses, non pas seulement pour nous-mêmes, mais à donner aussi aux autres. Amen. Eh oui, à donner aussi aux autres. Alors, je crois que tout cela, eh bien, c'est pour nous montrer. Moi, j'ai bien aimé, j'ai eu ça pendant mes vacances, la semaine dernière, l'histoire de Crésus et l'histoire de Job. Alors, ça me donne des idées quand je pars en vacances. Je vais peut-être repartir dans 8 jours pour revenir avec... Non, mais... C'est pour dire que quelque part, j'ai eu cette pensée, je voulais la partager tout simplement avec vous aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des choses qui sont paradoxales dans la vie. Hein. Mais il ne faut pas voir à ce qui brille, il ne faut pas s'attacher à ce qui brille, il faut regarder par-delà ce qui brille. Ouais. Tout ce qui brille n'est pas d'or, mais par contre on sait que quand on regarde avec les yeux de la foi, Dieu ne nous trompera jamais. Et moi je dis merci Seigneur, merci pour la bénédiction que tu as donnée à Job parce qu'il y a cru. Il était enrichi, il a reçu plus de bénédictions après qu'avant. Alors n'ayons pas peur de nous approcher du Seigneur et nous pouvons tout simplement eh bien, lui dire, mais Seigneur, remplis mon cœur de foi et donne-moi de grandes mains pour saisir ta grâce et ta bénédiction. On va prier maintenant quelques instants. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce qu'il y a de belles histoires dans la Bible. Elles sont merveilleuses et elles sont faites pour nous. Elles sont faites pour tous les hommes, pour tous ceux qui prennent le temps de s'arrêter dans une vie de trépidation, dans une vie de folie, qui nous fait passer d'une chose à une autre sans réfléchir, sans véritablement marquer eh bien, les vraies valeurs des choses qui ont de la valeur et de celles qui n'en ont pas. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci parce que nous pouvons passer pour être vivants et finalement être morts. Et ça, c'est vraiment le drame de notre société aujourd'hui, parce qu'elle s'agite, parce qu'elle court de tous les côtés. Et finalement, eh bien, les gens sont profondément malheureux, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas, en effet, Seigneur, tout ce qui est nécessaire, la paix, la joie dans leur vie. Ce n'est que des choses factices, des choses qui apparaissent et qui disparaissent. Mais le vrai sens de la vie, c'est autre chose. Alors nous te remercions et nous te bénissons. Et nous savons que si nous venons à toi en disant, mais Seigneur, je sens que je suis prêt de mourir, je sens, Seigneur, qu'il n'y a pas grand-chose en moi, le lumignon eh bien, est en train de s'éteindre. Alors, Seigneur, nous voulons tout simplement te demander, eh bien, que tu nous donnes la vie. Tu nous donnes le renouveau de la vie, comme tu l'as fait avec Job. Et nous te bénissons et nous te remercions, parce que nous savons que ta parole nous a affirmé qu'en Jésus-Christ, eh bien, nous passons, en effet, de la mort à la vie. Et nous te remercions pour cela. Tu nous bénis, Seigneur, tu bénis les amis qui sont là. Tu leur fais du bien, Seigneur, tu leur donnes de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ, de lire ta parole, de te prier tout simplement, avec des prières toutes simples, avec des mots simples, avec nos mots, avec notre vocabulaire. Ce n'est pas la peine de faire de grandes envolées lyriques, hein, mais Seigneur, devenir tel que nous sommes. Et nous te bénissons et nous te remercions dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Merci, Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Amen.